Cirque de la Parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux pour continuer la lecture cursive de l'Évangile de Jean. Avec le père José Willibald à Maritsou, nous en sommes au chapitre 9, la guérison d'un aveugle. Un très beau récit, très fluide, remarquablement construit, remarquablement raconté. En voici la lecture. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ? Jésus répondit : Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il ne faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit : Va te laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyé. L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient : N'est-ce pas celui qui était assis à mendier ? Les uns disaient : C'est bien lui. D'autres disaient : Mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'aveugle affirmait : C'est bien moi. Ils lui dirent donc : Et alors, tes yeux, comment se sont-ils ouverts ? Il répondit : L'homme que l'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit : Va, va à Siloé et lave-toi. Alors moi, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent : Où est-il celui-là ? Il répondit : Je n'en sais rien. On conduisit chez les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'est un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit : Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. Parmi les pharisiens, les uns disaient : Cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. Mais d'autres disaient : Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes ? Et c'était la division entre eux. Alors ils s'adressèrent à nouveau à l'aveugle : Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ? Il répondit : C'est un prophète. Mais tant qu'ils n'eurent pas convoqué ses parents, les Juifs refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue. Ils posèrent cette question aux parents : Cet homme est-il bien votre fils, dont vous prétendez qu'il est né aveugle ? Alors, comment voit-il maintenant ? Les parents leur répondirent : Nous sommes certains que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Comment maintenant il voit, nous l'ignorons. Qui lui a ouvert les yeux, nous l'ignorons. Interrogez-le, il est assez grand, qu'il s'explique lui-même à son sujet. Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ceux-ci avaient déjà convenu d'exclure de la synagogue quiconque confesserait que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents dirent : Il est assez grand, interrogez-le. Une seconde fois, les pharisiens appelèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent : Rends grâce à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il leur répondit : Je ne sais si c'est un pécheur, je ne sais qu'une chose, J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent : « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit : « Je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois ? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples, vous aussi ?» Les pharisiens se mirent alors à l'injurier et ils disaient : « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit : « C'est bien là, en effet, l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils ripostèrent : « Tu n'es que péché depuis ta naissance, et tu viens à nous faire la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il vint alors le trouver et lui dit : « Crois-tu, toi, au Fils de l'homme ? » Et lui de répondre : « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Eh bien, tu l'as vu. C'est celui qui te parle. » L'homme dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit alors : « C'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. » Les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Est-ce que par hasard nous serions des aveugles, nous aussi ? » Et Jésus leur répondit : « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites : « Nous voyons. » Votre péché demeure. » Père José, ce chapitre 9, comme je le disais en introduction, est remarquablement construit et raconté.
Ça me touche que vous disiez : « C'est un conteur qui entend ce conte. »
Absolument, oui, c'est vrai. Parole de conteur, il y a une série de répétitions qui sont d'une élégance tout à fait remarquable et d'une variété qui montre une grande maîtrise.
C'est ça. Il y a donc un mouvement dans ce texte. Hein. Il y a un cheminement et qui nous change un peu les chapitres précédents où l'on avait affaire à une parole qui essaye de se faire comprendre. Ici, c'est une expérience qui chemine et qui nous indique le chemin pour nous. C'est le chemin de la foi. Et il me semble qu'on peut en suivre les étapes pas à pas, d'une façon très claire. Le texte nous indique ces étapes. On peut en discerner sept. Moi, en tout cas, j'y vois sept étapes. La première, c'est évidemment la question posée par la situation de cet aveugle. Question posée par les disciples qui, avec une certaine étroitesse, lient le mal au péché, mais d'une façon un peu simpliste. Qui a péché, lui ou ses parents ?
Oui, c'est vraiment, on cherche le coupable. Quoi,
on cherche le coupable, exactement. Et ça, c'est le réflexe des disciples. Et Jésus se refuse toujours à désigner un coupable. Jésus s'adresse toujours à une personne blessée qu'il veut guérir et pas à un pécheur accablé. Donc la question, qui a péché ? Et Jésus répond d'une façon un peu énigmatique : personne n'a péché, mais c'est pour permettre à l'œuvre de Dieu de se manifester. Alors, qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu ? C'est, je crois, la venue, la naissance à la lumière. Et Jésus dit : voilà, au fond, nous sommes tous dans une sorte d'aveuglement, mais qui n'est que le champ clos, ouvert, disponible, en attente d'un geste ou d'un rayon de la lumière de Dieu. Alors, notre problème à nous, c'est de dire, est-ce que tout ce qui est négatif dans notre vie, dans notre existence, dans notre environnement, est-ce que c'est une fatalité? Et Jésus dit non, c'est un champ qui demande à être ensemencé par la lumière.
Et ensemencé par l'impossible, en quelque sorte, puisque c'est un aveugle né tout
oui,
de même, c'est exceptionnel.
Oui, il y a une insistance du texte qui va revenir plusieurs fois dans le texte. Les parents vont dire, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais ce qui lui est arrivé, nous n'y comprenons rien. Bon, donc la première étape, c'est la question. La mise en question, y a-t-il péché ou pas péché? Et Jésus dit, non, il y a prélude à une naissance. Alors, la deuxième étape, donc c'est la réponse de Jésus. Jésus refuse ce raisonnement dualiste. Et il nous dit que nous sommes en présence d'une œuvre de Dieu, d'une création qui s'achève. Elle n'est pas achevée. Nous sommes encore dans un jour en devenir. Et il nous faut accomplir l'action de celui qui a envoyé Jésus. Tant qu'il fait encore jour, une certaine nuit n'est pas encore venue, qui semblera donner force et raison à la puissance enténébrante. Mais bientôt, semble-t-il, le prince des ténèbres semblera triompher. Mais aujourd'hui, aucun partage définitif n'est encore fait qui fixerait les frontières de camps antagonistes. Personne n'est prédestiné au mal. Ça, je crois que c'est une affirmation de Jésus. Aucune détermination, aucun déterminisme n'est absolu. Tout est encore ouvert et libre. La lutte pour la liberté est ouverte pour chacun d'entre nous. Un choix nous est offert. Et quand Jésus prononcera le mot de jugement tout à la fin, il faut revenir à ce mot crisis qui veut dire décision, partage, discernement, plus que jugement au sens juridique du mot. Alors, le Christ, Jésus se donne comme la clé de ce drame engagé. Il est lui-même principe du passage de l'ombre à la lumière, et il est même cette lumière vivante et agissante qui convertit l'ombre. Quant au monde, dans la langue du quatrième évangile, il est ce lieu incertain, trouble. Le problème posé situe l'épisode à son vrai niveau de signification. Nous sommes en état de gestation d'une lumière secrète à naître. C'est la seconde étape.
Et donc il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de destin fixé à l'avance, comme on le voudrait au point de départ. Les disciples posent la question, mais est-ce lui ou est-ce ses parents? Et donc on enferme quelqu'un, et ici c'est le Christ libérateur.
On enferme et on immobilise. Et
voilà.
Le Christ libère et remet en mouvement.
C'est ça. Et nous sommes sur le chemin de l'accomplissement.
Exactement. C'est le mot important. Alors, la troisième étape. Le Christ, parole de Dieu, est seul à pouvoir partager son être et à dire dans nos ténèbres que la lumière soit. Alors, cette troisième étape est importante parce qu'on y voit Jésus reprendre, dans le récit évangélique, les gestes de la création première. C'est de sa propre bouche qu'il lie la poussière en boue pour en faire un onguent salutaire, rééditant et achevant le premier ouvrage de Dieu.
C'est vrai que dans la création, il y a la poussière et Dieu amène de l'eau, finalement.
Dieu humidifie la poussière pour lui permettre de prendre forme. Ce qui est intéressant, c'est que ce geste de Jésus, ce geste créateur ou recréateur, ne donne son fruit que dans le bain à la fontaine de l'envoyé. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? La création ne s'achève que dans une nouvelle naissance, le passage par une eau maternelle, si l'on peut dire, génératrice de lumière. On pense ici, évidemment, et les auditeurs de Jean y pensaient, à l'eau baptismale dispensée par la communauté ecclésiale nouvelle.
Nous sommes en présence de deux images fondamentales, l'eau maternelle et la lumière. Oui. C'est une association exceptionnelle, Père José.
Tout à fait. Et les deux sont donnés en collaboration.
C'est assez saisissant dans le récit. L'aveugle y alla, il se lava et à son retour il voyait. Donc il y a l'eau, l'action de l'eau, et oui. Puis il voit. Donc l'eau mène à la lumière.
Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est évidemment pour l'évangéliste plein de significations immédiates.
Et la concision du texte est très impressionnante.
Impressionnante. Oui. Oui, tout à fait. Alors, quatrième étape. Celle-ci est importante aussi. C'est la situation de celui qui est né à la lumière. L'ancien aveugle est devenu une question pour tous. On a peine à le reconnaître, il est lui-même et pourtant déjà autre. Il est déjà renouvelé. Il rayonne. Il doit même témoigner de son identité, je vous affirme que c'est bien moi. Il reprend une phrase que le Christ reprendra à son compte un peu plus tard. C'est bien moi. Mais la question reste entière autour de lui, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? Donc, l'aveugle est déjà présenté comme une personne neuve.
Et pleine d'audace aussi. Je vous affirme que...
liberté. Oui. Absolument.
C'est un homme déjà libéré.
Tout à fait. Mais je crois que l'homme qui s'ouvre à la foi ne pourrait encore donner de son expérience aucune interprétation. Ça, je crois que c'est important. Il ne peut que dire les faits, et avec simplicité. Celui qui a pour nom Jésus m'a fait une onction de boue et m'a envoyé au bain régénérateur. C'est tout ce qu'il peut dire. Après, une autre question s'approfondit, plus radicale, mais où est-il alors ? Et l'aveugle répond, je ne sais pas encore, j'ajoute encore. Je crois que c'est le premier stade du salut, et cela vaut pour nous. L'expérience de l'illumination n'est encore consciente que d'elle-même, mais elle n'est pas encore éclairée sur sa source. C'est donc une étape dans le chemin de la foi qui est importante. Nous vivons quelque chose d'encore confus, mais dont nous n'avons pas encore discerné la source, l'origine. Dans notre propre expérience, est-ce que nous pouvons connaître ou reconnaître cette clarté intérieure qui commence à luire en nous, telle remise en question, telle ouverture de notre cœur, telle décision qui réoriente notre vie, tel choix humble mais radical, geste qui semblait naître soudain en nous et cependant venir d'ailleurs, d'un au-delà de nous-mêmes, d'une parole entendue, d'un exemple, d'une question interpellante, d'une rencontre. Lumière qui fait irruption en nous. À nous d'en reconnaître le cours et de remonter jusqu'au premier signe de son apparition.
Ça me fait penser à un passage de saint Marc où on parle de la semence qui germe et le semeur ne sait pas comment ça se passe. Il y a une sorte de vie secrète là.
Ah, il y a C'est un mystère vivant, un mystère qui est vie. Mais je crois que c'est important de souligner et de reconnaître cette étape de la foi en nous. Elle peut d'abord apparaître d'une façon mystérieuse, insaisissable, encore obscure en ce qui concerne sa source. Et à nous d'en remonter le cours.
Néanmoins, on aperçoit manifestement le rayonnement chez cet homme. Il y a donc quelque chose qui est sensible pour tous ceux qui le rencontrent.
Il rayonne, il questionne, il interpelle.
Il affirme.
Il affirme et il témoigne d'une liberté nouvelle qui impressionne. Et
alors tout de suite après, ce sont les autorités qui vont intervenir.
C'est ça. Alors nous arrivons à la cinquième étape. Cet homme, cet aveugle, a été guéri un jour de sabbat, un septième jour, un jour du repos de Dieu. Mais pouvons-nous nous demander comment Dieu se repose-t-il ? À notre façon, Jésus répond, mon Père travaille sans cesse. Il ne peut cesser d'être ce qu'il est. Amour, débordement, mouvement d'appel et d'accueil, initiative de rencontre. Et Jésus est sans cesse vie en mouvement, vie, accueil et appel. Or, souvent, nous cherchons à l'enfermer dans nos propres interdits, paralysants, immobilisants. Et sous l'effet d'une mentalité légaliste fermée sur elle-même, un barrage surgit dans le récit évangélique. Cet homme n'est pas de Dieu puisqu'il ne garde pas le sabbat. Dieu lui-même ne peut plus violer son sabbat. C'est ça l'affirmation des prétendus croyants. Qu'il reste dans son repos et ne gêne pas le fonctionnement de la mécanique mise au point et consacrée par la logique de la religion. Nous savons, disent les pharisiens, Dieu a parlé à Moïse, qu'il se taise. Celui-ci, qui semble vouloir remettre en mouvement notre Dieu immobile, d'où est-il ? C'est donc la cinquième étape. Donc rappelons les étapes de la question posée. Comment tes yeux se sont-ils ouverts ? Où est-il ? Et à présent, d'où est-il ? Notre cœur s'est ouvert à une lueur nouvelle, mais nous cherchons l'origine de cette illumination. Nous sommes reconduits par quelqu'un à la parole de Jésus lui-même ou à son écho.
Père José, le temps passe merveilleusement bien avec vous et nous sommes déjà à la fin de cette première émission sur la guérison de l'aveugle-né. Nous allons reprendre ce commentaire dans 15 jours, tout simplement. Merci beaucoup de ces premiers éclairages. Nous en sommes à la cinquième étape.
Donc il nous reste encore deux étapes.
Il nous reste encore deux étapes et nous reprendrons tout cela bientôt. Et nous allons nous quitter avec Beethoven. Beethoven interprété par un grand ami de Maritsu et un grand violoniste belge qui est ni plus ni moins que Arthur Grumiaux, associé ici à Claude Arrault. Il s'agit de l'opus 12, numéro 2.